ID est en direct du Club France avec Philippe Le Caplain.
Bonsoir et bienvenue au Club France, en effet, où se trouve le studio de RFI durant toute la durée des Jeux de Paris 2024. Et comme chaque dimanche, voici ID. ID avec un regard particulier posé sur le sport et l'olympisme. Nous allons découvrir que les philosophes sont aussi des sportifs, alors qu'au baccalauréat, on a plutôt le sentiment qu'il y a un fossé entre ceux qui comptent sur le sport pour marquer des points et ceux qui redoutent que l'épreuve de philosophie leur en fasse perdre. Bonsoir Stéphane Flocari.
Bonsoir.
Vous êtes philosophe, auteur de Le sport et moi. Alors, et moi pour émotion, et non pas et moi en deux mots, aux éditions Amphora, ça vient de paraître. Et pourquoi le football aux éditions Belles Lettres. Bonsoir, Raphaël Vercher.
Bonsoir.
Professeur de philosophie, auteur de philosophie du triathlon et de sport émérite, histoire d'un mythe, ces deux livres aux éditions du Volcan. Et Solène Lussault, bonsoir à vous.
Bonsoir.
Jusqu'à, voilà, 4 ans, vous étiez capitaine de l'équipe de France de natation synchronisée. Vous aimiez la philosophie, je parlais du bac, vous avez fait quoi? Bac C, philo, bac A, littéraire?
Alors moi c'était un bac scientifique que j'ai passé donc à l'INSEP. Mais du coup, la philo, ça a été secondaire, mais très utile, nous, pour nous évader, pour essayer de plus comprendre ce qu'on faisait, nous, à l'INSEP.
Mais pour de vrai. Vous redoutiez les cours de philo, vous aimiez ça?
Ouais.
Ouais.
Pour le coup, oui.
D'accord. Oui, oui.
C'était mon élève.
Voilà. Ah. J'avais un très bon professeur, c'est peut-être pour ça,
donc
aussi.
Vous ne pouvez pas dire le contraire devant vous. Côté, justement, Stéphane Flocari, vous êtes un sportif?
Oui.
Et vous faites quoi?
Je suis footballeur depuis que j'ai 5 ans. Et puis, comme j'étais un attaquant, que j'aime pas me blesser, ou je voulais plus me blesser, je suis passé à la course à pied, au marathon. Donc maintenant, je cours des marathons, je fais du vélo, de la musculation à l'INSEP, où je suis professeur depuis une dizaine d'années. Donc je m'entraîne 4-5 fois par semaine, et le sport fait pleinement partie de ma vie. C'est pas si courant que ça pour les philosophes, même pour les intellectuels et pour les professeurs en général. Et pour moi, c'est partie intégrante de ma vie.
Bah, on en a un autre philosophe sportif, c'est vous, Raphaël Vercher, puisque vous faites du triathlon.
Oui, le triathlon, et je m'y suis mis depuis une dizaine d'années. Ce n'est pas le sport que j'ai pratiqué en premier. J'ai d'abord fait du vélo, de la course à pied, et je n'étais pas du tout nageur, en fait. Et c'est un peu par défi que je me suis mis au triathlon, un peu sur le tard. Mais je nagerai jamais comme Solène, malheureusement. C'est souvent plutôt noyade que natation, même si j'exagère un peu.
Alors Solène, je suppose que ce soir vous allez regarder ce qui se passe, bien évidemment dans les bassins, hein, puisqu'on a Léo Marchand qui pourrait obtenir des médailles. C'est ça que vous suivez depuis, ça fait depuis 24 heures, hein, les JO, vous regardez quoi à la télé ou ici au Club France?
Honnêtement, j'essaie de tout suivre. C'est vrai que les athlètes qui sont là sont un peu de ma génération, donc j'en connais beaucoup, soit que j'ai croisé à l'INSEP, soit que j'ai croisé en études supérieures, donc... J'ai vraiment à cœur de suivre des individualités aussi qui me sont chères. Maintenant, oui, forcément, la natation, ça a une place un peu particulière dans mon cœur, tout comme le plongeon, le water polo et la natation artistique qui commencera début août. Donc oui, forcément, Léon Marchand, je le suis un petit peu plus de près que certaines autres disciplines.
Et on suivra sa finale tout à l'heure sur RFI. Ce sera à 20h30, heure de Paris, dans 1h15 maintenant, avec Christophe Diremzian. Stéphane Flocari, Raphaël Vercher, vous regardez quelles épreuves à la télé? Pour l'instant, il n'y a pas trop d'athlètes. Hein.
Alors moi, je regarde absolument tout maintenant. Et en ce moment, comme Solène, je suis hyper impliqué affectivement et émotionnellement. Parce que beaucoup de mes anciens élèves sont là. Ou Walid Kiar, qui vient de malheureusement rater la médaille de bronze au judo, est un de mes anciens élèves. Amandine Bouchard est une de mes anciennes élèves. Toute l'équipe de natation synchronisée que Solène laisse derrière elle, ce sont toutes quasiment à 90% mes anciennes élèves. Tout le judo aussi. Donc émotionnellement, ce sont des jeux tout à fait particuliers pour moi.
Et vous, Raphaël Vercher?
Oui, alors je vais manquer d'objectivité parce que j'ai un tropisme pour les sports d'endurance et notamment le vélo. Et aujourd'hui, j'ai beaucoup apprécié pouvoir assister à la victoire de Pauline Ferrand-Prévot ici au Club France. Hein, c'était vraiment une belle victoire et une pensée néanmoins pour Loana Lecomte, hein, qui a malheureusement été blessée pendant cette course.
Le vélo, en tout cas, ce sera la semaine prochaine, le week-end prochain d'ailleurs. Alors, la tête et les jambes, pour reprendre une célèbre émission, vous n'étiez pas encore née, hein, Solène, hein, mais c'était
pas.
Dans les années 70, la tête et les jambes. D'ailleurs, un premier ministre, un homme qui allait devenir premier ministre, Laurent Fabius, était candidat, c'était un champion d'équitation, c'est pas forcément. Il est aujourd'hui président du Conseil constitutionnel.
Il a eu 20 en philo au bac.
Ah ouais. la tête et les jambes. Donc là, résolument, il avait les deux. Mais bien souvent, elles sont dissociées, la tête et les jambes, pour paraître antagonistes. Mais il y a bel et bien une philosophie du sport. C'est pas antinomique, Stéphane Flocard.
Moi, dans ce que vous dites, j'entends deux choses. La première, la question, la tête et les jambes. C'est une question et c'est une dissociation très française. En France, on est un pays très intellectualisé. On est au pays de Molière, de Proust. C'est difficile pour un intellectuel de montrer son tropisme sportif et son intérêt pour le sport. Et ça, évidemment, c'est une chose, à mon avis, qui est en train de se corriger. À mon avis, pas assez vite. Mais il y a un grand intérêt des philosophes actuels de notre génération. On est deux sur le plateau pour le sport. Bon, quant à la question de savoir s'il y a une philosophie du sport, ça c'est vraiment pour moi une vaste question. Aujourd'hui, on fait une philosophie d'un peu tout. Mais je pense que les philosophes ont des choses intéressantes à dire sur le sport. Moi, par exemple, j'ai pris le prisme de l'émotion. Il y en a d'autres. Et on peut réfléchir aujourd'hui philosophiquement avec des concepts sur le sport.
Alors, la philosophie, est-ce que ce serait de l'éthique, des valeurs, des considérations qu'on retrouve dans le sport? Vous n'avez pas 3 heures, monsieur Verchère. On relève les copies dans 3 quarts d'heure, même pas.
Oui, il faudrait presque une vie pour répondre à la question « qu'est-ce que la philosophie ?» C'est ce que disait Derrida. Mais en tout cas, la philosophie, c'est essayer de donner du sens à tout un ensemble de choses, là où les sciences particulières ne parviennent pas forcément à répondre à certaines choses qui sont posées. Par exemple, l'historien, il va se poser des questions, mais il y a un moment où il y a des choses qui vont l'intéresser et auxquelles il ne pourra pas répondre par la méthode historique usuelle. Et ça, c'est un peu le cas pour toutes les sciences. Et moi, la façon dont je conçois la philosophie, c'est un peu comme ça, c'est d'être au carrefour, au croisement des différentes sciences humaines et sociales et même des sciences en général pour essayer de penser ce qui est impensé par les sciences particulières, par construction méthodologique, en fait. Et donc, effectivement, là, il y a tout un tas d'horizons qui s'ouvrent. Ça peut être l'éthique, la question des valeurs, mais également la question du sens qu'on va donner à la pratique, la question des émotions, et également, oui, des questions politiques, qui sont aussi celles qui m'intéressent, parce qu'il y a tout un tas de choses qui se jouent de manière un peu sous-jacente dans le sport.
Solène Lussault, en tant que sportive, vous voyez comment la philosophie?
La philosophie, moi, je la mettrais aussi dans un état mental dont on parle de plus en plus chez les sportifs, de l'aspect, voilà, comment moi je me vois dans ma performance, qu'est-ce que je veux faire de ça, comment je me suis construit aussi à travers ma discipline et à travers mes objectifs. Là, évidemment, on voit beaucoup d'athlètes, mais il y en a beaucoup aussi qui ont soit échoué, qui ont brillé plus tôt et qui ont échoué plus tard. Enfin, du coup, la philosophie aussi permet de mettre les choses dans un ensemble. En tout cas, moi, je sais que ça m'avait permis de prendre un petit peu de recul et de remettre des concepts et des choses très plus claires, en tout cas, que ce que nous, on pouvait vivre dans le tumulte de notre pratique sportive.
Vous parlez de construction, Solène Lussault. Stéphane Flocari, vous êtes agrégé docteur en philosophie. Vous enseignez donc à l'INSEP, qui est la pépinière dans le bois de Vincennes où s'entraînent les sportifs de haut niveau. Dans Le Sport et Moi, pour reprendre le titre de votre livre, vous faites la part belle à ceux, aux émois, à ceux de l'enfant, à ceux qui le marquent à vie. C'est bien ça, ça commence très tôt, la philosophie.
La philosophie, je ne sais pas. Personnellement, ça a été mon cas, sinon je ne serais pas devenu professeur de philosophie. Il y a effectivement une quête de sens dans chacun d'entre nous. Moi, ce qui m'a frappé en étant professeur à l'INSEP, en arrivant avec ces champions, pour lesquels je dois dire, je baisse mon chapeau à chaque fois que je franchis la porte de l'INSEP, ce sont des gens qui ont une vie extraordinaire. Solène, qui est à côté de nous, ça semble être un petit être là, tout gentil, etc. Hein, c'est une championne, ce sont des lions, ce sont des lionnes, ce sont des êtres qui ont vraiment une recherche de l'extrême que vous n'imaginez pas. Ce sont des gens qui se lèvent à 7h du matin tous les jours, qui déjeunent très vite, qui ont 3 heures de cours, ensuite 2 ou 3 heures d'entraînement, qui déjeunent, qui font une micro-sieste de 20 minutes, qui ont 2 heures de cours, puis 3 ou 4 heures d'entraînement, puis qui vont à l'étude le soir. Il y a manifestement chez le sportif de haut niveau, que je ne suis pas, une quête extrême de sens, mais qui va passer par le corps, qui va passer par la performance, qui va passer par la mise en jeu de soi. Alors moi, ce que j'ai vu à l'INSEP, c'est que la philosophie apporte quelque chose aux sportifs, incontestablement. Il faut dire que quand on est enseignant à l'INSEP, dans n'importe quelle discipline, on a des fenêtres assez courtes de concentration des élèves. Parce que ce sont des élèves qui s'entraînent, encore une fois, 4, 5, pour le sport de Solène, la natation artistique, c'est 6 ou 7 heures par jour. Et elle me disait avant l'émission tout à l'heure que les Russes s'entraînent, elles, jusqu'à 10 ou 11 heures par jour. Donc ce sont des gens qui sont sur-impliqués dans une pratique extrême. Mais ils ont un besoin de sens. Vous voyez, tout à l'heure, il y avait Walid Kiar, qui a perdu au bronze. Je me rappelle quand j'avais Walid en classe. Walid, c'était un élève un peu turbulent, pas forcément intéressé immédiatement par le cours, et qu'il faut d'abord gagner affectivement, émotionnellement. Et une fois qu'il est dans votre camp, vous pouvez parler avec lui, et vous pouvez le faire s'ouvrir. Et je me rappelle qu'il m'avait dit à la fin de l'année, et les autres années où je l'ai vu, la philosophie m'a apporté quelque chose, elle m'a permis de me poser, elle m'a permis de mettre des mots sur ma quête de sens. Donc incontestablement, la philosophie peut apporter quelque chose. Elle peut aussi accentuer certaines problématiques, donc il faut pouvoir se l'approprier. Moi, quand je parle avec les sportifs de haut niveau, une des choses qui me frappe, c'est que très souvent, ils ne savent pas pourquoi ils sont sportifs de haut niveau. Alors parfois, il y a un papa, il y a une maman, il y a une famille sportive, mais il y a une quête de sens que la philosophie peut permettre d'enclencher.
Raphaël Verchère, la philosophie commence donc par se connaître soi-même. C'est ce que vous écrivez également donc, dans votre livre « La philosophie du triathlon » qui se lit comme un roman parce qu'en fait, vous racontez, vous, votre pratique très personnelle de la course, enfin des différentes épreuves, hein, puisqu'il y en, il y en a trois. Et vous dites qu'effectivement, il faut à chaque fois dépasser ses limites. Il faut se connaître pour dépasser ses limites.
Oui, bien sûr. Moi, ce qui m'a intéressé en faisant du triathlon, c'était de me poser la question pourquoi est-ce que j'en faisais, en fait hein? Qu'est-ce que j'allais chercher et qu'est-ce que j'ai trouvé? Alors, une autre manière de définir la philosophie, c'est aussi de dire que la philosophie, elle pose plus de questions qu'elle donne de réponses. Hein? Moi, ce qui m'a intéressé, c'était vraiment de problématiser le fait qu'on aille dans cette pratique. Et je pense qu'il y a autant de finalités qu'il y a de pratiquants, en fait. Hein. Ce que moi, je mets dans le triathlon, ça peut être fondamentalement différent de ce que d'autres pratiquants peuvent mettre. Mais néanmoins, ce que je développe dans le livre, c'est peut-être, c'était l'ambition, hein, c'est des discours dans lesquels peut-être certains pratiquants ou pratiquantes peuvent se retrouver. Le triathlon, pour rester sur cet exemple précis, c'est une épreuve assez particulière parce que c'est un sport combiné. Également.
Donc il y a de la course, il y a du vélo et de la natation.
Hein. Alors dans l'ordre, natation, vélo, course à pied, et je pense que cet ordre il est intéressant à considérer, hein, parce que justement j'essaie de voir métaphysiquement qu'est-ce qui pourrait expliquer pourquoi on passe dans cet ordre plutôt qu'un autre. Hein. Et justement là-dessus j'essaye de réfléchir aux éléments naturels face auxquels on se confronte dans la pratique du triathlon. Hein. On commence par affronter l'eau dans la natation, ensuite sur le vélo on affronte l'air parce que c'est l'obstacle principal auquel on est confronté avec le cyclisme, et on finit par affronter la gravité de la terre avec la course à pied, tout ça avec le feu de l'effort et souvent le feu du soleil aussi parce que c'est une épreuve estivale. Et là-dessus, il y aurait comme, c'est un peu ce que j'essaie de défendre, il y aurait comme, de manière implicite, une évolution de la vie qui serait récapitulée un petit peu, puisqu'on est passé d'un point de vue phylogénétique d'espèces aquatiques à des espèces terrestres et bipèdes, en fait. Hein.
Et dans votre livre, revient à plusieurs reprises toujours la même question. Mais pourquoi faites-vous ça, Son Lusso, pourquoi vous avez fait ça? Pourquoi vous avez fait de la natation synchronisée à très haut niveau pendant plusieurs années?
Déjà, j'ai commencé par amour de l'eau. Mais faire des longueurs dans une piscine, ça s'est pas révélé à moi comme une passion, mais plutôt de danser, d'avoir une liberté aquatique et artistique. Et le haut niveau s'est imposé assez naturellement à moi, parce que j'ai gravi les échelons assez naturellement en restant dans la cellule familiale. J'ai eu la chance, contrairement à certains sportifs, de pas avoir quitté le nid familial trop tôt. Donc en fait, très rapidement, parce que les résultats se faisaient et que j'avais la structure d'entraînement possible, j'ai commencé à faire du haut niveau, faire mes premières sélections en équipe de France. Et en fait, il y a eu cette espèce de passion de la compétition, cette passion de performer, d'aller plus loin, de progresser. C'est vrai que la natation et tous les sports aquatiques, le fait qu'ils soient portés nous permettent aussi d'évoluer sur un certain temps, d'avoir une capacité de progression quasiment infinie. Et ça, c'était très moteur pour moi et ça m'a emmené jusqu'à l'INSEP à l'âge de 15 ans. Et là, arrivé dans cette arène de compétition d'excellence, c'était lancé et je ne rêvais plus que de médailles internationales et de haute performance.
Et vous avez donc eu une carrière à l'Europe et au monde avec participation aux championnats du monde et championnats d'Europe. Je propose de faire une petite pause musicale avec une chanson, Jardin d'hiver, cette chanson coécrite par Benjamin Biolay qui figure sur le premier album solo de Keren Ann, la biographie de Lucas Philippe Ibsen. Mais c'est en 2000, dans la version de Henri Salvador, qu'elle devient un classique de la chanson française. Et depuis, cette chanson a connu beaucoup de versions, dont celle que je propose d'écouter, celle du chanteur burkinabé Cantala.
Netumbi lolo fe, lolo ni kaloyele, kaloyele mi donne kakanuna, dans mon jardin d'hiver. Ne kakanuni, eleni nedo, ne kakanuni, filataro. Netumba fe, eleni ne, anye wanyon fe. Canu ta robe fleur sous la pluie de novembre, mes mains qui courent, je n'en peux plus de t'attendre. Sans diamant de Menico, Nenina Djarabilo, Amanga Fumadi Mama.
Jardin d'hiver, chanté par le burkinabé Cantala dans Idée consacrée à la philosophie et au sport avec Stéphane Foucari, philosophe, Raphaël Vercher, professeur de philosophie, et Solène Lussault, ancienne capitaine de l'équipe de France de natation synchronisée. Nous disions que, en tout cas c'est vous qui l'écrivez Stéphane Foucari, que le sport constitue une chambre d'écho de toutes les grandes questions que les hommes se posent sur la justice, sur la beauté, la violence, la liberté ou encore le pouvoir. Ça paraît tellement loin des exploits sportifs et de l'engagement de soi.
Tout à l'heure, nous parlions de l'expérience qu'un philosophe peut mettre en avant ou pas par rapport à sa pratique sportive. Moi, j'avais écrit un livre d'abord sur le football, où j'ai mis mon expérience du football à la fin, tout à fait à la fin. Et tout à la fin, je raconte mon premier match de football. Et mon premier match de football, ça a été une découverte extraordinaire parce que je me suis retrouvé au milieu des forces de la nature. Il y avait du vent, il y avait de la boue. J'avais l'impression de pas avancer, d'être un gosse pas rapide. Et il y avait un entraîneur qui, au bord de la pelouse, nous hurlait dessus en nous disant « Le football, c'est 95% dans la tête, 5% dans les chaussures. » J'avais l'impression, avec les 95% de mes méninges, de pas comprendre exactement ce qu'il fallait faire. Et avec les 5% de mes chaussures, de pas avancer assez vite. Et effectivement, progressivement, quand on fait du sport, quand on commence à en faire en compétition, en club, qu'on s'entraîne 2-3 fois par semaine, en fait, on découvre très souvent d'abord un sport. On entre dans les sports à travers un sport. Personnellement, ma pratique a été l'inverse de ce que Solène a décrit tout à l'heure. C'est-à-dire, en fait, moi, au début, j'aimais bien aller jouer au foot avec mes copains, j'aimais bien taper dans le ballon, et progressivement, j'ai découvert que j'aimais bien courir. Et aujourd'hui, ce que j'aime, c'est courir seul, sans amis, sans mon chien que je pourrais emmener, sans un casque ou un téléphone que je pourrais avoir avec moi.
Et dans votre tête à ce moment-là, c'est le vide ou au contraire vous réfléchissez ?
Non, là c'est le moment du contact avec moi. Là c'est le moment où je suis pas un père, je suis pas un prof, je suis pas un conjoint, je suis pas un ami, je suis pas un fils, je suis moi, en contact avec moi, et je réfléchis, ou au contraire je ne réfléchis pas. Et vous savez, quand vous laissez le corps faire, vous vous rendez compte que lui aussi il pense. Et c'est sans doute pas par hasard que j'ai travaillé dans mes études universitaires et dans ma thèse sur un auteur qui nous dit « corps je suis » et « le corps pense », c'est-à-dire Nietzsche. Et vous vous rendez compte que quand vous laissez faire le corps, il a beaucoup de choses à dire et beaucoup de choses à faire.
Raphaël Verscher, vous écrivez que la philosophie commence par se connaître soi-même. C'est indispensable quand on veut dépasser ses limites. Ça veut dire que vous aussi, quand vous courez le triathlon, vous faites le vide pour être totalement en contact avec vous-même, je veux dire le vide avec le reste de l'existence.
Alors quand on fait un triathlon, surtout sur les longues distances, on passe par tout un tas d'émotions, par tout un tas de rapports à soi-même aussi, hein, parce que c'est des épreuves qui vont durer plusieurs heures. Et justement, il y a une expérience très intéressante par rapport à sa propre conscience, qui va passer par des états très différents et qui peut même parfois s'étreindre un petit peu du fait de la fatigue, du fait de l'effort en fait. Hein. Et donc on a un rapport à soi qui se transforme tout au long de l'épreuve. Et notamment l'expérience qu'on va faire de la souffrance, elle se transforme au fur et à mesure. Souvent, alors pour prendre l'exemple du triathlon, du marathon, un marathon, ça ne dure pas 42 km en fait. Hein. Si on s'est correctement entraîné, on est souvent assez confortable pendant un certain nombre de kilomètres et parfois très brutalement advient ce moment critique où on est dans le dur, où le corps n'avance plus comme on voudrait qu'il avance, et là il y a une expérience qui est celui du dépassement et qui est une expérience même du pouvoir de la volonté sur son propre corps et qui indiquerait ce qui nous distingue un petit peu de l'animal. Un cheval, quand il est fatigué, il va s'arrêter. C'est pour ça qu'on met un jockey sur le cheval pour lui donner des coups de pied et qu'il continue à avancer. Nous, on a ce pouvoir de continuer à avancer en étant notre propre jockey, et c'est là où ça va être le fondement d'une forme de joie au niveau de l'émotion, parce que on va sentir qu'on gagne en puissance sur soi-même, qu'on gagne en perfection, pour le dire comme Spinoza.
C'est la force du mental, Stéphane Flocari, finalement.
Ah oui, c'est exactement ça. L'exemple du marathon, à mon avis, est vraiment l'exemple d'un très bon sport, parce que c'est pas un sport dans lequel on court avec les autres, ni même contre les autres. C'est un corps où on essaye une expérience, et un sport dans lequel on essaye de se dépasser soi-même. Moi, je peux vous donner une expérience d'un marathon que j'ai fait dans les diverses participations que j'ai eues au marathon de Paris. Une année, j'étais triste dans ma vie. J'étais triste et j'étais en colère parce que j'étais en échec sur des choses personnelles, sur des choses très profondes de ma vie. Et quand on arrive au 30-32e kilomètre, on rencontre dans le marathon ce qu'on appelle un mur. C'est-à-dire, sur le plan physiologique, votre corps va casser. Donc là, effectivement, il faut être son propre jockey et se mettre deux coups de pied dans les flancs pour avancer. Je me rappelle, j'étais devant la Tour Eiffel et j'étais dans un moment, justement, en contact avec moi, mais dans une année très difficile avec des problèmes personnels. Et je me suis dit, le mur, je le casse. Je me suis dit, ce mur, je ne veux pas le subir, je le casse. Et à partir du 30e kilomètre, j'ai accéléré et j'ai fait un négatif split. Et entre le 30 et le 35e kilomètre, j'ai couru 5 kilomètres en 18 minutes. Ça veut dire que j'étais dans un moment où j'avais dominé mon corps et je demandais à mon corps de me donner une compensation de la souffrance morale dans laquelle j'étais. Et là, vous voyez la puissance extraordinaire du corps, parce que vous vous rendez compte que quand vous lui passez le relais, il est capable de penser et de vous apprendre des choses sur vous-même. J'ai fini ce marathon, j'étais hyper content. J'ai passé 24 heures sur une espèce de nuage qui m'a permis ensuite, je ne dirais pas de résoudre des difficultés, mais de me retrouver dans un état de moindre souffrance morale. Et paradoxalement, c'est en allant chercher dans la souffrance physique que j'ai trouvé les ressources mentales pour affronter la vie.
Solène Lussault, vous avez été l'élève en philosophie de Stéphane Flocari. Est-ce que vous gobez, vous avalez, vous êtes d'accord, vous avez vécu ce qu'il vient de vous dire, vous, dans votre piscine, sachant que vous y êtes beaucoup moins longtemps que 3 ou 4 heures, en tout cas sur un effort continu, sur une épreuve. Comment ça, est-ce que vous avez buté, vous, sur ce mur, on va dire, intellectuel?
Oui, tout à fait. C'est vrai que nos compétitions vont durer 3 minutes au maximum, donc c'est vrai que c'est pas là que ça se joue, c'est les heures et les heures d'entraînement qu'il y a avant. Et ces murs-là, on peut les rencontrer sur du travail physique, sur du travail de répétition, où c'est de l'usure mentale, parce qu'on répète sans cesse la même chose. Des fois, on peut rester 3 heures sur 5 secondes de chorégraphie. Et là, c'est là où, effectivement, c'est faire confiance à son corps et décrocher aussi l'esprit. Et aussi, on a aussi, nous, vu que c'est un sport olympique, on a un entraîneur, on se remet à l'entraîneur.
Et vous êtes une équipe. C'est-à-dire qu'à la différence des deux témoignages qu'on vient d'entendre, ce n'est pas un sport solitaire, la natation synchronisée par définition. Oui. D'ailleurs, c'est à quoi ? À 2, à 4, à 6 ?
Alors, c'est à 2 pour le duo et les épreuves par équipe sont à 8.
À 8. Donc, dans ces cas-là, vous trouvez des ressources avec les motivations, le regard, les encouragements des autres ?
Tout à fait. Et c'est aussi accepter de refaire pour les autres. Parce que c'est vrai que peut-être que nous, on va être dans un très bon jour et tout va bien passer. Et pour autant, on va faire exactement la même chose sans cesse et sans cesse parce qu'une de nos camarades va être en difficulté. C'est avoir aussi cette capacité de résilience pour les autres. Après, de toute façon, je pense qu'un sport de haut niveau ne sera jamais un sport totalement individuel. Je pense que de toute façon, il y a toujours une relation avec un entraîneur, des partenaires d'entraînement. Mais oui, c'est vrai que nous, c'était très porteur d'avoir ces coéquipières à côté qui sont dans un bon état physique ou plus difficile. Et voilà, c'est comment on vit avec les états d'âme et les états de forme de chacun pour s'élever.
Aujourd'hui, vous êtes étudiante en master en sciences politiques. Est-ce que vous avez l'impression de travailler en solitaire avec votre expérience ou au contraire en groupe, là aussi, avec votre expérience ? Parce que vous avez des professeurs, il doit y avoir des travaux en commun, etc. Mmh. Comment vous l'abordez ?
Alors, je l'aborde où j'ai beaucoup de mal à travailler toute seule. Dès qu'il y a un travail de groupe, déjà, j'ai naturellement envie de prendre le leadership là-dessus. Et j'ai une scolarité tellement millimétrée qu'aujourd'hui, être avec des gens qui ont du temps, j'ai du mal à me coordonner sur leur façon de travailler. C'est impossible pour moi de faire quelque chose à la dernière minute. J'ai besoin de, j'ai besoin de cadre. J'ai besoin de dialoguer, d'échanger et de progresser. De travailler et de réfléchir en groupe, mais aussi je sais ce que je veux, je sais ma structure, comment je fonctionne et comment je veux être efficace, et j'ai plus trop de problèmes à être toute seule.
Est-ce que c'est plus facile pour vous d'étudier les sciences politiques à ce niveau-là que vos condisciples qui n'ont pas été sportifs de haut niveau, qui n'ont peut-être pas le mental que vous avez ?
J'ai pas les mêmes bases, en tout cas, déjà. J'ai pas la même façon, je pense, de réfléchir et de travailler. C'est vrai que je vais être beaucoup plus efficace et beaucoup plus en amont. Je pense que c'est juste différent. Je suis pas sûre que ce soit plus dur ou plus simple que les autres. En tout cas, je l'aborde d'une manière totalement différente et j'ai beaucoup moins de. Je prends beaucoup plus de recul sur mes études et sur leur réussite. C'est vrai que je vais peut-être être. Je vais paraître moins impliquée. Parce que j'arrive à voir toujours un petit peu plus loin et que je vois moins de fatalité dans certaines choses.
Ah ben Solène a été mon élève, alors moi j'ai dit recul et j'ai des choses à dire parce que je l'ai vu évoluer à la fois comme sportive et comme élève. Donc une chose, vous avez dit, Solène, est-ce que vous trouvez des ressources ? Est-ce que le sport vous a donné des ressources ? Incontestablement, le sport a donné des ressources à cet être, mais il en a donné aussi aux autres. Ce qui est incroyable dans le sport, c'est que se révèlent les qualités que vous avez. Solène, c'est quelqu'un d'extrêmement gentil, d'extrêmement agréable avec tout le monde, aimé de tout le monde, souriant, mais elle a cette force incroyable de leadership, elle emmène les autres. C'est-à-dire, c'est un être sur lequel... Dans un groupe, vous ne savez pas pourquoi, c'est une chose qui ne s'explique pas, qui n'est pas rationnelle. Vous avez des êtres sur lesquels on va s'appuyer plus que d'autres. Solène, c'est typiquement quelqu'un de constant, quelqu'un de stable, quelqu'un de fort, quelqu'un d'organisé. Et donc les autres s'appuient beaucoup sur elle. Et je ne doute pas que dans ses études supérieures, son appétence scolaire, autant que je m'en rappelle à l'INSEP, qui était réelle mais pas extrême, compense... Et dans le supérieur, elle est peut-être avec des élèves qui ont plus de qualité intellectuelle et académique, mais le sport lui a donné des ressources spéciales.
Je propose qu'on revienne à ce qui s'est passé avant-hier sur la scène du côté de l'Académie française. Aya Nakamura avec la garde républicaine et ce pot pourri, Dja Dja et la reprise de la chanson de Charles Aznavour, formidable.
Et puis le reste, on s'en fout.
La prestation d'Aya Nakamura l'autre soir sur les bords de Seine faisait référence à la diversité, au multiculturalisme, je vais y arriver. Est-ce que ça renvoie finalement à des considérations philosophiques, Raphaël Vercher ?
Alors, si on prend l'histoire du sport, et l'histoire du sport moderne, hein, parce que le sport tel qu'on le connaît, c'est quelque chose d'assez récent qui date essentiellement du 19e siècle et qui est même géographiquement spécifique, hein, parce que ça naît en Angleterre. Si on prend cette origine qui est celle-ci, on est face à un sport qui se fonde beaucoup sur l'exclusion de tout un tas de catégories de personnes. Hein. Bon, ça a été beaucoup dit cette année. Pierre de Coubertin, pour lui, qu'est-ce que c'est que le sport ? C'est quelque chose qui s'adresse aux jeunes gens qui sont valides, qui sont d'une origine plutôt bourgeoise, qui sont citadins et européens. Hein. Et donc, Pierre de Coubertin, il n'hésite pas à dire que c'est pas fait pour les femmes, c'est pas fait non plus pour les personnes qui sont malades ou qui sont handicapés. C'est pas fait non plus pour les gens qui sont pas européens. Hein. Et toute l'histoire du sport, depuis cette origine qui est celle fin du 19e siècle et de Coubertin, c'est l'histoire d'une progressive démocratisation à la fois quantitative, parce qu'il va y avoir de plus en plus de personnes à pratiquer une activité physique et sportive, mais également une démocratisation qualitative envers de plus en plus de catégories sociales. Donc la cérémonie qui a lieu ce vendredi, elle met un petit peu ça en scène, en fait, hein, cette idée d'inclusion qui est dans le sens de l'histoire du sport tout au long du XXe siècle, en fait. Sachant que cette inclusion, elle a quand même une limite qui est celle que dans le cadre des Jeux Olympiques, ça s'adresse tout de même à une aristocratie qui est une aristocratie musculaire. Hein. C'est pas tout le monde qui peut participer aux Jeux Olympiques parce que tout le monde n'a pas forcément la capacité, n'en déplaise au marathon pour tous qui aura lieu.
Et en avoir les capacités, ça veut dire aller au bout de soi-même et peut-être même au-delà. La mort n'est jamais loin en sport, au sens propre, quand un cycliste sort de la route et tombe dans un ravin, quand un boxeur succombe à un traumatisme crânien ou alors quand un athlète perd la vie à cause du dopage. Mais Céline disait, un sportif doit mettre sa vie sur la table. C'est ce que, à quoi vous faisiez référence tout à l'heure, Stéphane Flocari, quand il disait que vous étiez une lionne, Mlle Dussault.
Ce que Céline dit, il le dit surtout du styliste et de l'écrivain. Il dit... Mais Solène, je te laisse répondre.
Déjà, c'est quelque chose qu'on va très souvent entendre de la part de nos entraîneurs, mettre ses tripes sur la table, donner sa vie. C'est des injonctions comme ça qu'on entend depuis toujours. C'est une totale dévotion physique et mentale, aller au bout de son effort, aller au bout de ses capacités chaque jour. Évidemment que chaque jour, c'est impossible, mais c'est de répéter des efforts le plus parfait possible, aller au bout de soi. Moi, en ce qui me concerne, pour mes coéquipières aussi, chacune doit donner le meilleur parce que c'est à 8 qu'on va y aller.
Mais est-ce qu'on se fait mal ?
On se fait mal tous les jours.
D'accord. Oui. Parce que, Raphaël Vercher, un de vos chapitres est intitulé « Du masochisme ». Parce que pour gagner, il faut s'infliger des souffrances et faire mal à l'adversaire.
Oui, encore une fois, il faut distinguer en fonction des sports. Hein. En sociologie du sport, aujourd'hui, on distingue des sports qui sont plutôt hédoniques, c'est-à-dire qui reposent sur le plaisir, on peut avoir une gratification quasi immédiate, et à l'opposé, des sports ascétiques, où pour avoir une forme de joie, il faut en passer par des sacrifices, par toute une maltraitance quasiment de soi-même, en fait. Hein. Et là, je pense qu'il faut appeler un chat un chat. On peut tout à fait parler de masochisme à cet endroit, à partir du moment où on éprouve une jouissance à faire s'offrir son corps, si bien qu'on pourrait presque considérer certains sports comme des perversions sexuelles, ou en tout cas une sublimation de cette propension au masochisme. Et c'est justement ça qui m'intéressait, c'est de voir si à partir de ce que Freud a pu dire sur le masochisme, mais également la psychanalyse en général, qu'est-ce qu'on pouvait dire des sports en général. Et alors il y a tout un tas d'interprétations là-dessus, je ne vais pas pouvoir toutes les développer, mais pour en donner une, Freud il dit très bien qu'on a cette propension au sadisme en soi, qui consiste dans une forme d'agressivité. Parfois, on n'est pas capable de l'extérioriser sur autrui, et c'est pourquoi on va l'intérioriser sur soi-même. Et donc, se faire souffrir soi-même pour, dans la compétition sportive, faire souffrir autrui. Ça se voit très bien sur les sports de course, hein, où si on veut pouvoir l'emporter, il faut se faire souffrir soi-même pour faire souffrir autrui. Donc, dans ce masochisme, il y a une forme de sadisme qui se joue de manière
directe.
Et
dans les trois disciplines que vous pratiquez dans le cadre du triathlon, quelle est celle qui est la plus maso?
Alors, dans le triathlon, c'est assez particulier parce qu'il y a un enchaînement et on est en gestion sur les premières épreuves. Et là où on commence vraiment à avoir mal, c'est sur le marathon, sur la distance Ironman. Hein.
Et le 30e kilomètre, hein, vous disiez tout à l'heure,
c'est pas mais en réalité, tous les sports vous font mal. Dès que vous voulez pratiquer à un certain niveau et que vous voulez exiger de vous-même, tous les sports provoquent de la douleur. Mais je crois que Freud a dit aussi qu'il y a deux choses importantes dans la vie, c'est aimer et travailler. Et que le mot travailler, ça vient d'un mot latin, tripalium, qui veut dire instrument de torture, et qu'il faut accepter dans tout travail, quand on a une recherche de l'excellence et de l'exigence, de souffrir et de s'infliger quelque chose à soi. Si vous permettez juste une chose, tout à l'heure, vous avez parlé de Daya Nakamura, c'est extrêmement important qu'on s'arrête une seconde là-dessus, parce que tout le monde en parle aujourd'hui, ça fait le buzz, mais c'est une véritable occasion qu'on a dans notre pays de réfléchir autrement à un certain nombre de choses. Moi, ce qui m'a beaucoup ému sur ce pont, qui est le pont des arts, face à l'Institut, face à l'Académie, c'est qu'il n'y avait pas seulement Aya Nakamura, c'est qu'il y avait la garde républicaine. La garde républicaine, c'est l'équivalent de l'équipe de Solène Lussault. C'est réglé au millimètre carré et c'est réglé au centimètre carré et au dixième de seconde. Et ce qui était extrêmement beau, je trouve, dans cette scène, c'est pas simplement que c'était une très belle chanteuse noire qui chantait, qui est d'ailleurs la plus podcastée en France, dans le monde, mais c'est qu'il y avait la garde républicaine qui dansait avec elle et qui se laissait un peu aller. Et j'ai l'impression qu'il y a eu une rencontre à un moment de la culture académique et de cette chanteuse. Et ça, c'est un très, très beau moment.
Puisque vous parliez de beauté, cette question, est-ce que le sport est un art? Car l'effort est toujours beau, ça fait de belles photos, hein, les exploits sont gracieux, notamment en natation synchronisée, Solène Lussault. Le sportif, c'est un virtuose, un artiste, vous vous considériez comme ça quand vous plongiez dans la piscine?
J'aurais pas la prétention de me prendre pour une artiste. Par contre, le sport est un art, oui. Parce qu'elle nous touche. On a tous une sensibilité, une envie d'aller au sommet de son art. Et aussi dans chaque sport, il y a cette envie aussi de faire bien, de rendre ça facile, de rendre ça accessible. On voyait ça encore avec Pauline Ferrand-Prévot. C'est que ça avait l'air facile sur son vélo. Tout avait l'air simple, c'était beau à voir, c'était fluide. Et pourtant, elle devait souffrir le martyre, elle devait être épuisée. Et pour autant, c'est beau. Et alors oui, il n'y a pas d'espace forcément à la création. Quoique, il y a évidemment l'imagination et la créativité pour trouver les bons chemins. Mais pour autant, il y a de la personne à chaque fois dans chaque performance.
Raphaël Vercher.
Oui, alors savoir si le sport c'est un art, c'est un débat qui remonte au sport lui-même et qui a intéressé déjà Coubertin. C'est pas une question qui est simple à trancher. Peut-être avant de se la poser, on peut se poser la question de savoir s'il y a une expérience esthétique du pratiquant quand on fait une activité sportive. Et là, ce qui m'intéresse, c'est le rapport qu'on peut avoir à la nature, qui est décisif en fait. Hein. Pour reprendre l'exemple du triathlon, c'est un sport de pleine nature, de la natation on va la faire en eau libre et là-dedans il y a quelque chose qui est comme une expérience de la vulnérabilité de l'athlète par rapport à une forme d'immensité qui serait celle de la nature, quelque chose qu'on retrouve aussi après dans la pratique cycliste dans les grands espaces et donc ça porte un nom, hein. C'est au XVIIIe siècle on appelait ça l'expérience du sublime, c'est quelque chose que tout le romantisme au XIXe siècle a essayé d'explorer et il me semble que se joue un petit peu cette expérience esthétique dans certains sports.
Votre opinion là-dessus, Stéphane Clocari ?
C'est une question cruciale et c'est une question à laquelle il est extrêmement difficile de répondre, de savoir si le sport ou si un sport est de l'art et s'il y a à l'intérieur du sport des sportifs qui sont spécifiquement des artistes. Ce qui est sûr, c'est que pour qu'il y ait de l'art, il faut deux choses. Il faut d'un côté qu'il y ait un artiste, donc quelqu'un qu'est-ce que Kant, vous évoquiez l'esthétique à l'instant, est-ce que Kant appelle du génie ou de l'originalité ? Vous regardez dans la pratique sportive du sport de haut niveau, il y a très peu de gens qui apportent quelque chose à leur sport d'absolument nouveau, qui laissent un geste nouveau, un signe nouveau, quelque chose qui sera repris par les autres. Et d'un autre côté, il faut un sentiment esthétique, c'est-à-dire qu'il faut, face aux œuvres d'art, ressentir ce que Kant appelle l'intérêt non pas porté à la chose réelle, mais à sa représentation. C'est pour ça que, pour toutes ces raisons, personnellement, comme philosophe, je doute plutôt que le sport soit un art. ne serait-ce que parce qu'il n'y a pas d'œuvre ou que les œuvres sont éphémères. Donc pour moi, c'est compliqué de dire ça, mais je retiens un mot de ce qu'a dit Solène, c'est le mot facile. Effectivement, quand quelqu'un est un très grand artiste, il fait quelque chose d'extrêmement difficile en vous donnant l'impression que c'est très facile. Et ça, c'est plutôt le résultat du travail, quoi.
L'exploit a toujours l'air facile quand on voit Usain Bolt passer la ligne d'arrivée et faire son célèbre geste en
tout
se
à fait.
Marrant. On s'imagine qu'il a travaillé 9 secondes 69 dans sa vie, alors qu'en fait, il a souffert à faire des régimes, à mettre des chaussures,
bien
à
sûr.
Faire des retours de stade. Enfin, c'est assez incroyable.
Bien sûr.
On poursuit cette discussion après avoir fait un détour par la piscine. Non, par l'escrime, pardon. L'escrime. La piscine, c'est plus tard. L'escrime, c'est au Grand Palais, avec Martin Guez et Sarah Danat, qui est la consultante RFI, escrimeuse, médaille de bronze aux Jeux 2024. Vous étiez avec nous, d'ailleurs, lors de la cérémonie d'ouverture avant-hier soir. Martin Guez, il y a du fleuret femme et de l'épée homme en ce moment, ou dans les minutes qui viennent, au Grand Palais ?
Exactement, nous aussi on fait l'expérience du sublime ici au Grand Palais. Je ne sais pas si ce sont des artistes, mais Lee Kiefer et Alice Volpi s'en donnent à cœur joie. Elle vient de se qualifier. Lee Kiefer, l'américaine, elle est dans tous ses états et il y en a une autre qui est dans tous ses états. C'est Sarah Danat, médaillée de bronze à Athènes en 2004, plutôt il y a une vingtaine d'années. Et là, voilà, on a une finale 100% américaine au fleuret dames. Voilà, c'est incroyable ce que viennent de faire les américaines. On attendait les italiennes, finalement, sont deux américaines en finale.
C'est vrai que d'habitude, les italiennes font 1, 2 et 3. Troisième ex aequo même sur les championnats d'Europe, championnats du monde. Là, elles ont une Italienne qui va tirer la médaille de bronze. Et les Américaines sont jamais bien loin. Là, elles vont faire au moins 1 et 2, ça c'est sûr. Et puis oui, la petite jeune Américaine qui a sorti la numéro 1 mondiale, Errigo, c'est juste magnifique. En plus, dans cet écrin du Grand Palais... on se régale.
Ouais, là, on a pris plein les yeux aujourd'hui, messieurs, dames, Sarah Danat, voilà, qui découvrait le Grand Palais, qui a été aussi encouragé pas mal ses copains. Je crois qu'il y a un petit Guadeloupéen que vous connaissez bien qui s'appelle Yannick Borel qui arrive tout à l'heure pour une demi-finale. Ce sera cette fois-ci à l'épée chez les messieurs, une demi-finale contre un Égyptien, justement. Ce sera la demi-finale qu'on suivra tout à l'heure à 20h25 sur RFI. Contre Mohamed El Sayed, effectivement.
Martin Guez avec Sarah Danat, donc au Grand Palais pour l'escrime. Revenons à l'idée avec nos invités qui réfléchissent sur le sport et sa pratique. On en fait beaucoup, vous l'avez dit, hein, les uns les autres. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est régulier, il n'y a pas de week-end, c'est 7 jours sur 7, on y pense tout le temps. Est-ce que finalement, il y a une sorte d'addiction qui se crée ? Est-ce que vous étiez, Solène Lussault, addict à la piscine et au maillot de bain ?
À partir d'un certain point, j'étais plus addict. J'étais addict à la performance, j'étais addict à mon envie d'accomplissement en compétition. Mais je peux pas. À un certain niveau, on était à presque 40 heures par semaine. On avait notre dose en fait. Si tant est qu'on était addict, on avait bien notre dose par semaine. Donc j'avoue qu'un week-end de repos ne me donnait pas cette sensation de manque comme on peut voir sur. J'ai des amis qui font par exemple aussi des Ironman, etc., qui ont envie, qui ont ce besoin de se dépasser, qui ont ce besoin de faire leur activité physique. Nous, entre guillemets, on nous l'imposait par un cadre d'entraînement, par un cadre de performance. Donc c'est vrai que ce côté addiction était un petit peu différent. Par contre, ce qui est sûr, c'est que depuis que j'ai arrêté ma carrière, c'est impossible pour moi de rester inactive plus de 2 jours.
Oui, justement, qu'est-ce que vous faites comme sport et avec quelle fréquence ?
Je me suis mise au rugby universitaire avec l'école de Sciences Po, du coup.
Ouais.
Donc je suis partie de zéro. Terrestre avec un ballon, enfin c'était tout nouveau. Mais je cours, j'essaie d'aller à la piscine, même si la piscine municipale, ça reste une épreuve... psychique pour moi, mental.
C'est-à-dire
pour garder mon calme.
Ah oui, parce qu'elle n'est pas juste réservée pour vous.
Bah non, non, pas du tout. Et puis, il faut slalomer. Et les gens n'aiment pas trop ça. Donc, c'est, voilà, c'est toujours un petit peu rigolo. Mais j'ai la bougeotte. Ça, c'est sûr.
Raphaël Vercher, vous, la philosophie du triathlon, hein, donc ça ne se fait pas une fois une fois qu'on est en vacances, hein, c'est un sport régulier. Est-ce que ça vous manque ? Est-ce que quand vous sortez de vos livres, de vos cours, vous n'avez qu'une envie, c'est de prendre vos chaussures ou votre vélo pour aller faire du sport ?
Bah, j'ai peut-être pas une pratique du sport qui est forcément très saine, hein, parce que je passe vite de phases dans lesquelles je suis dans un ascétisme forcené où effectivement ça prend le registre de l'addiction avec tous les critères qui sont très spécifiques à l'addiction au sport, qui sont par exemple le fait de se sentir coupable si on rate une séance d'entraînement, le fait de vouloir aller s'entraîner même si on est blessé, et tout un tas de choses comme ça. Et c'est contrebalancé dans mon fonctionnement par des phases de débauche totalement laxiste
qui mange des frites et un burger.
Voilà, c'est ça où j'arrête et où je prends facilement des kilos, si bien que le sport que je pratique vraiment, c'est sans doute le yo-yo avec mon poids, où je peux prendre 10 kilos et les reperdre derrière. Mais en tout cas, c'est vrai que, en tout cas pour les sports d'endurance, c'est clair et net que ça peut s'inscrire sur le registre de l'addiction. Hein. Quand on pratique ces sports-là, il se passe tout un tas de choses d'un point de vue hormonal. Alors, pendant longtemps, on a parlé de la sérotonine, de la dopamine, de ces choses-là. Il y a des travaux plus récents qui montrent que ce qui provoquerait cette sensation d'euphorie dans le cerveau, ce serait qu'il y aurait notre cerveau qui développerait ce qu'on appelle des endocannabinoïdes, c'est-à-dire son propre cannabis, en fait. Si bien que courir pendant une heure, deux heures, cinq heures, ça correspondrait à fumer un gros joint. Et quand on prend les récits des trailers, par exemple, qui parfois courent pendant 20 heures et qui parfois se privent même de sommeil, ils nous décrivent des expériences hallucinatoires qui sont au sens propre stupéfiantes, en fait. Mmh. Donc on comprend très bien qu'on peut avoir une dépendance là-dedans. Et juste pour finir en deux mots, c'est très intéressant le récit de certaines personnes qui n'ont pas forcément un grand passé sportif, mais plutôt de toxicomanes ou d'alcooliques, qui tout d'un coup découvrent le triathlon ou la course en montagne et tout d'un coup décrochent totalement de leurs anciennes addictions et tombent dans d'autres addictions qui sont celles du sport.
Est-ce que le sport peut placer celui qui le pratique dans un état second, Stéphane Flocari ?
Oui, incontestablement. Mais ça peut être positif ou ça peut être négatif. Ça peut être positif parce que ça vous met dans un état second, parce que ça vous donne des joies extraordinaires. Par exemple, quand vous gagnez, ou bien le lendemain d'un marathon, le lendemain d'une grande course, ou quand on a gagné un tournoi. Ça peut aussi vous mettre, bien sûr, tout en bas et vous faire sentir, ça a été dit, coupable, honteux, triste. Il y a quand même une vraie différence. Il y a une spécificité dans l'addiction sportive, si tant est qu'il en existe une. C'est que dans une addiction, normalement, vous avez un produit. Et en général, celui qui est addict choisit son produit. Ça parle de sa construction mentale, ça parle de son histoire et il fixe sur un produit liquide, une drogue, le jeu, le sexe, etc. Mais dans le sport, il y a quelque chose qui est auto-addictif, c'est-à-dire vous êtes addictif à un état de vous-même. Et quand on est addictif à un état de nous-mêmes, ça a un sens. Ça veut dire que très souvent, quand même, à mon avis, on lutte contre des modifications de notre humeur et peut-être contre des états un peu dépressifs. Et je pense que dans le sport, le sport est la meilleure cure naturelle qu'on puisse s'administrer à soi-même pour lutter contre la dépression ou contre la déprime auquel personne n'échappe.
À l'inverse, et une dernière question que je vous demande de débattre, est-ce que les jambes peuvent être un danger pour la tête ?
Les jambes, un danger pour la tête ?
À trop faire de sport.
On en a parlé aussi.
Est-ce qu'on peut se faire mal finalement à
faire
trop de sport ?
Bien sûr, ça s'appelle le surentraînement. Ça s'appelle le surentraînement, et là, c'est une brutalité contre soi-même. Et chez les sportifs de haut niveau, malheureusement, ils sont souvent confrontés à une perte progressive du plaisir. Et la seule chose qui leur reste, c'est la souffrance de se brutaliser et d'être tout le temps, comme ils disent, dans le rouge.
Raphaël Vercher, partagez cette analyse.
Oui, bien sûr, je pense que il faut avoir conscience de ce qui peut se jouer dans le sport et notamment quand on en pratique d'une façon intensive. Pour ce qui est du cas du triathlon, il y a un acronyme alors qui est peut-être pas forcément bien choisi, mais on parle de AIDS, donc de After Ironman Depressed Syndrome, donc c'est le même acronyme que pour dire SIDA en fait. Et souvent les triathlètes parlent de ça en fait, de cette effondrement de l'humeur après avoir accompli un objectif. Alors on trouve ça dans l'Ironman, mais dans tous les sports, à partir du moment où on s'est investi d'une manière conséquente, et c'est il y a une forme de sevrage par laquelle il faut passer, parce que sinon ça peut être assez brutal.
Et bien justement, posons la question à Solène Lussault, est-ce que vous avez l'impression d'avoir vécu une sorte de syndrome de stress post-traumatique quand vous avez arrêté la compétition à haut niveau?
Moi, j'ai eu beaucoup de chance. Je ne l'ai pas vraiment vécu comme ça. Je l'ai vécu comme un nouveau départ et une opportunité de faire autre chose et de me lancer dans ma deuxième vie. Maintenant, c'est vrai qu'après un Ironman et après les Jeux Olympiques, il y a ce qu'on appelle aussi la petite mort du sportif, qui est liée à la retraite, qui est comment je me retrouve dans ce monde que j'ai côtoyé, mais de manière assez parallèle, comment je me retrouve à faire des études, à avoir un travail normal, à être lambda. On n'exerce plus en tant qu'expert dans un domaine. Moi, c'est quelque chose que j'ai adoré faire, notamment par exemple avec le rugby, c'est de repartir de zéro et d'apprendre et d'être la novice. Mais c'est vrai que ça peut être très difficile de perdre cette expertise, de se retrouver dans un monde qui est vaste. Aussi, on perd, entre guillemets, un repère.